L'actualité des Alpes du Sud avec la colère des parents d'élèves dans les Alpes du Sud.
Dans quelques jours, la carte scolaire sera définitivement validée pour la rentrée prochaine. Elle prévoit des fermetures, notamment à Embrun et Saint-Paul-sur-Ubaye. Des opérations coup de poing sont menées.
Et je t'aime, moi non plus.
Arnaud Murgia, jusque-là maire Les Républicains de Briançon, annonce se mettre en retrait de son parti et soutenir et voter pour Emmanuel Macron. Donc une décision prise hier.
Et puis direction le salon international de l'agriculture.
Les médailles continuent de pleuvoir au concours général agricole. 23 pour les Alpes de Provence, 23 pour les Hautes-Alpes. Visiblement, on apprécie le miel, la bière, l'huile et le vin dans la capitale.
Et mon dauphin qui se découvre en 3D.
Alpes, un reportage au cœur de cette expérience immersive de la place forte proposée grâce à la start-up Lumène. On enfilera les lunettes de réalité virtuelle dans ce journal. Du côté du ciel, c'est une dégradation nuageuse aujourd'hui.
Oui, avec encore du soleil en matinée, mais les nuages qui vont arriver dans l'après-midi. Côté température, ça s'échelonne sur nos deux départements. Les maxis de 8 à 13 degrés pour aujourd'hui. La colère gronde dans les Alpes du Sud face à la carte scolaire de la rentrée.
Alors que les inspections académiques dessinent le visage des écoles pour septembre prochain, Embrun refuse de perdre l'une de ses classes. Direction l'école Pasteur où les parents d'élèves ont bloqué hier l'entrée de l'établissement. Alors qu'un dernier vote de la carte scolaire aura lieu le 7 mars prochain lors du CDEN, le Conseil départemental de l'éducation nationale, ils veulent peser dans cette décision, tout comme la maire d'Embrun, Chantal Emehoud.
Nous avons une démographie scolaire qui est en augmentation. Nous avons eu deux fermetures en 2016 et en 2018 que nous n'avions pas contestées parce qu'il y avait une baisse des effectifs. Et quand il y a une baisse des effectifs, comment peut-on contester la volonté de l'éducation nationale de réorienter les enseignants par solidarité et par bon sens? On avait accepté ces fermetures et on a eu raison. Mais cette année, ça ne se justifie pas parce que nous avons une augmentation du nombre d'enfants qui va s'amplifier. D'abord parce que la population de notre ville est en augmentation. Depuis 3,5% lors du dernier recensement. On a de nouveaux arrivants qui ne sont pas seulement retraités, on a également deux jeunes couples avec des enfants et on est dans un cycle vertueux depuis déjà 3 ans. 3 années consécutives qui nous permet de constater une augmentation de la démographie scolaire. Donc on est contre, d'abord et avant tout pour cette raison-là, et puis parce qu'on se met en quatre pour vraiment faciliter la vie de l'éducation nationale sur la commune d'Embrun et on trouve aujourd'hui que c'est vraiment injuste.
Réunion fatidique donc le 7 mars prochain pour d'autres communes des Hautes-Alpes puisque l'inspection académique envisage 5 autres fermetures de classes à Gap dans 2 établissements, à Briançon, à Saint-Bonnet-en-Champsaur et Villard-d'Arène. De son côté, la directrice académique dans les Hautes-Alpes, Catherine Albaric-Delpech, rappelle que le département perd aussi des élèves et possède tout de même l'un des meilleurs taux d'encadrement du pays. Autre point, si des fermetures sont au programme, des ouvertures aussi du côté de Gapromet, Châteauroux-les-Alpes, Le Pouette et le regroupement Romolon-Rochebrune-Théus. Dans les Alpes d'Haute-Provence, même discussion, même colère. Un comité technique s'est réuni en début de semaine. Après Maligé, Cérest, Reillanne, Mann, Gréoux-les-Bains, Valensole et Volx, l'Académie réfléchit désormais à des fermetures sur Colmar-les-Alpes, L'Escale et Saint-André-les-Alpes. Incompréhension aussi pour les parents d'élèves de l'école de Saint-Paul-sur-Ubaye. Malgré des effectifs annoncés en hausse, cette école rurale de montagne doit perdre une classe en septembre. Une opération escargot aura lieu ce mercredi à 14h des Glézolles jusqu'à la Condamine Châtelard. Action symbolique pour protester contre cette décision qui impliquerait qu'un enseignant assurait seul la classe pour 8 niveaux. Irréaliste, maltraitant, supprimer une classe, c'est la mort à court terme de notre école, estiment les parents d'élèves. Le CDEN aura lieu ce jeudi à Digne-les-Bains.
Politique et le « je t'aime moi non plus » d'Arnaud Murgia.
Le maire, Les Républicains de Briançon, vice-président du conseil départemental des Hautes-Alpes, votera et appelle à voter dès le premier tour des présidentielles pour Emmanuel Macron, alors qu'il a parrainé la candidate de son parti, Valérie Pécresse. Dans un communiqué, il estime qu'elle n'est plus en mesure d'être au second tour, en lieu et place d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen. Il regrette aussi une ligne politique qui se radicalise, selon lui. Si Arnaud Murgia dit rester un homme de droite, il se met en retrait des Républicains et n'adhérera à aucun autre parti. Pourtant, lui aussi s'y critique avec la politique d'Emmanuel Macron. Arnaud Murgia se dit mal à l'aise depuis plusieurs mois face aux critiques adressées au gouvernement qui, selon lui, répond aux enjeux. Une décision donc forte hein, qui était cependant pressentie en raison de ses forts liens d'amitié avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a entrepris cette même démarche de soutien pour le chef de l'État le week-end dernier. Je t'aime moi non plus, donc on le disait, hein, souvenez-vous, en 2017, Arnaud Murgia, qui était pourtant président de Les Républicains dans les Hautes-Alpes, avait été exclu de son parti alors qu'il présentait une candidature dissidente aux législatives. Une information qui doit faire sourire Joël Giraud, l'ancien député La République En Marche sur la seconde circonscription, était en effet opposé en 2017 à Arnaud Murgia. Désormais secrétaire d'État en charge de la ruralité, il sera en déplacement vendredi dans les Alpes d'Haute-Provence. Joël Giraud débutera cette visite officielle par la pose de la première pierre de la future maison de santé de Sisteron. Il échangera ensuite avec les volontaires territoriaux en administration. Le ministre se rendra dans l'après-midi à la Condamine Châtelard pour échanger sur l'hébergement touristique avec des élus locaux, mais aussi des représentants de France Tourisme Immobilier et de la Banque des Territoires. L'opération de solidarité se poursuit avec le peuple ukrainien dans les Alpes du Sud. Une nouvelle réunion se tiendra à Gap ce soir à 19h30 au campus des Trois Fontaines. Elle permettra de faire un point sur la collecte et d'organiser le départ du convoi vers Lenica en Pologne dès vendredi matin. Tous les dons seront acheminés vers cette ville dans laquelle des militants associatifs gapensais entretiennent des contacts réguliers et où travaille une forte communauté ukrainienne qui s'organise pour accueillir des familles fuyant l'Ukraine. À Digne-les-Bains également, une collecte est mise en place depuis hier dans un local mis à disposition par la municipalité au stade Robert Gage, avenue Saint-Véran. Un local ouvert du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 16h30 à 18h30. Aucun produit ne doit être déposé devant le local en raison, en dehors des horaires de collecte. Des bénévoles sont aussi présents dans les supermarchés de la ville. En accord avec l'ambassade d'Ukraine et l'association des maires et des présidents d'intercommunalité, les produits de première nécessité peuvent être collectés. Couvertures de thermique, sacs de couchage, plaids, matelas, oreillers, gel douche, dentifrice, brosse, couches pour les bébés, serviettes en papier, antiseptiques, alcool, masques réutilisables et jetables ou même encore des tentes. Et puis, la ville de Manosque met aussi à disposition une salle municipale pour collecter les dons à destination des réfugiés. Rendez-vous à la maison des associations avenue de l'Argile de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Du côté de Briançon, on connaît un peu plus aussi la collecte, les horaires de collecte au sein du centre communal d'action sociale. Rendez-vous les lundis et mercredis de 16h à 19h, mardi et jeudi de 10h à 14h et samedi de 10h à 13h du côté du CCS avenue René Froger, la ville de Briançon qui s'associe à la démarche initiée par la métropole de Nice, une métropole qui fera acheminer dans les jours prochains des dotations d'aide humanitaire auprès de la population ukrainienne. Embrun également envisage une collecte de dons. Pour l'heure, des discussions sont en cours, mais l'initiative sera prise au niveau local. Et puis un mot également pour vous dire que le drapeau ukrainien est installé depuis hier dans le hall du conseil départemental des Hautes-Alpes à Gap, une action en soutien au peuple ukrainien. Je souhaite témoigner mon soutien et celui des Hautes-Alpes à cette souveraineté ukrainienne, déclare Jean-Marie Bernard.
Direction le Salon international de l'agriculture avec record égalé pour les Hautes-Alpes, 23 médailles lors du concours général agricole.
Et oui, c'est une moisson égale à celle de l'édition 2019. Les vins, la bière, l'huile de noix ou encore les fromages ont su séduire les différents jurys. Alors ce mardi, génépi, confiture, jus de fruits mais aussi miel ont apporté leur lot de médailles. Les abeilles d'Apiland à Rousset qui ont bien butiné puisque pas moins de 5 breloques dont 2 en or feront leur retour dans les Hautes-Alpes. Doublé en or également pour l'apiculteur David Desvignes. L'or aussi pour la confiserie alpine de Christophe Zana et pour les ruchers de Camille à Ribéré. Des ruchers qui repartiront aussi avec le bronze pour le miel toute fleur polyflorale claire. La confiture de myrtille du Plantivore à Châteauville-Vieille obtient pour la première fois la récompense suprême. Enfin, les boissons ne sont pas en reste avec le bronze pour l'entreprise Guéral et sa liqueur de génépi. Même couleur pour le jus de pomme de Gérard Bénet à Ventavon. Et puis, ce sont 23 médailles également pour les Alpes d'Haute-Provence. Les vins du territoire se sont particulièrement illustrés. 13 breloques, dont 4 en or, 7 en argent, 2 de bronze pour le domaine de Régus, la cave Petra Viridis et le château Saint-Jean-les-Durances. Quant aux huiles d'olive, elles engrangent range 5 médailles, toutes en or, remportées grâce au domaine Salvatore et au moulin de l'Olivette. Les bières ont aussi été récompensées, c'est l'or pour la brasserie Cordeuil et le gin distillé des distilleries et domaines de Provence. Les bières aux fruits rouges et houblonnées de la brasserie Cordeuil remportent le bronze. Et puis une médaille identique ira à la coopérative laitière de Lubaye, le Chambéron, pour le fromage au lait de vache.
Mon dauphin se découvre en 3D.
Et oui, direction une véritable expérience immersive de la place forte qui est proposée grâce à la start-up Lumen, un outil qui se destine en particulier au public empêché. Les personnes en situation de handicap ou encore âgées peuvent désormais découvrir ou redécouvrir ce haut lieu de la culture haut-alpine. Aurore Valoris s'est rendue dans un atelier pour seniors à Guillestre.
Donc n'hésitez pas, hein, 360 degrés. Hein.
Avec Lumine, René et Michel, 72 et 75 ans, ont pu redécouvrir la place forte sous un nouveau jour. L'outil propose plusieurs thématiques, évasion, relaxation, réminiscence, une plongée à travers des paysages et des lieux très différents grâce à ces masques de réalité virtuelle.
C'est extra, franchement.
Nous, on connaît mon dauphin, on l'a visité. On a pu, effectivement, moi j'ai pu comparer certaines prises. Les vidéos sont un petit peu en hauteur, donc quand on regarde vers le bas, c'est comme si on était dans un gros drone, on va dire, par exemple.
Engagée dans le programme européen Alcotra Terre Monviso, la communauté de communes du Guillestrois Kera teste cette expérience immersive dans son volet inclusion sociale. Alors que le service vie sociale et service de proximité a loué ses casques depuis janvier dernier, des actions sont depuis menées sur 4 EHPAD du territoire, mais aussi dans des ateliers à destination des seniors comme c'était le cas ici. Et les retours sont plus que positifs, souligne Laetitia Prat, directrice de ce service à la communauté de communes du Guillestrois Kera.
Le retour qui nous intéressait le plus, on va dire, c'était celui des professionnels de santé, des ergothérapeutes, des EHPAD. Et en fait, ils nous le redemandent. Ils trouvent des usages apaisants, relaxants. Ça leur permet de sortir un peu aussi des ateliers qu'ils font habituellement. Puis ce petit côté immersif, je pense que les résidents, ça les fait vraiment sortir de leur quotidien. Et...
En 2021, Lumine a fait partie des candidats retenus par l'incubateur du patrimoine. Cette structure, lancée par le Centre des Monuments Nationaux en 2017, permet de soutenir des startups qui proposent des solutions innovantes, grâce notamment à un accompagnement financier. C'est comme cela que la startup a choisi Mon Dauphin pour mener cette expérience immersive. Des prises de vue ont été réalisées en juin dernier. Une belle visibilité pour la place forte de Mon Dauphin, selon Manon Asséna, chargée de communication pour le Centre des Monuments Nationaux.
Pour Mon Dauphin, ce qui est génial, c'est que aujourd'hui, peut-être qu'au moment où on parle, je sais pas moi, à Lille ou à Bordeaux, il y a peut-être des résidents d'un EHPAD qui sont en train de visiter Mon Dauphin. Mine de rien, ça donne une visibilité au monument, éventuellement au territoire. Alors même s'il s'agit de public empêché, on peut imaginer en fait que selon la façon dont vont se servir, dont vont s'emparer en fait de cet outil les collectivités territoriales ou toute structure qui les utilise, finalement, là par exemple, ils envisagent une sortie avec des jeunes et ensuite venir à Mon Dauphin. C'est vraiment un outil hyper protéiforme.
Notez que 2 mallettes, soit 6 casques de réalité virtuelle, ont été loués par la communauté de communes du Guillestrois Kera pour être déployés sur le territoire. Un investissement qui représente plus de 4 600 euros pour 12 mois.
Merci Aurore, votre reportage à retrouver sur alpe1.com.
Alpe 1 Sport. Avec du hockey et la victoire à domicile pour la Rapace de Gap.
Victoire 2-1 hier soir face aux boxeurs de Bordeaux. Hein, les Bordelais qui doivent encore batailler pour leur ticket des playoffs. Quant aux joueurs d'Éric Blay, ils franchissent la barre des 60 points. Et puis le 13e Grand Prix cycliste de Sisteron fera son grand retour ce dimanche, après 2 ans où il n'était plus inscrit au calendrier des courses de la région PACA. 150 coureurs s'aligneront au départ. Ils devront effectuer 13 tours d'une boucle de 7 km. 3 depuis l'école de Verdun. Coup d'envoi dès 13h30 pour cet événement organisé par la Roue d'Or Sisteronaise et le service des sports de Sisteron. Et puis le ski de jury en tête d'affiche à Seillac, natif de Scandinavie, popularisé par les Britanniques en villégiature à Saint-Maurice à l'aube du XXe siècle. Ce sport équestre est une discipline de glisse où le skieur est tracté par un cheval ou un poney. Bien qu'anonyme, le Kera et le domaine nordique du Christiland comptent porter haut les couleurs de ce sport en organisant ce dimanche la seule compétition enregistrée sur le territoire français. De 9h30 à 13h, la course sera divisée en trois épreuves. Slalom géant, slalom spécial, parcours de maniabilité et en deux manches qui permettront de faire une moyenne pour donner le classement final. Une douzaine d'attelages sera répartie en quatre catégories. La commune de Siac sera représentée par quatre jeunes adolescents qui pratiquent régulièrement cette activité tout l'hiver.
Vous êtes témoin d'un événement ? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.